Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Et alors là, on a un sacré gros bras avec moi, là, c'est Julien Charpentier.
Bonjour.
Bonjour Julien Charpentier.
Bonjour à tous.
Pour les gens qui ne te connaissent pas, il faut savoir que tu fais 1m95.
1m90.
Ouais, non, on va pas dire le poids.
Non, mais, enfin, c'est pas une question de poids, mais c'est une question de muscle. Moi, j'ai envie de dire, voilà, faut pas l'emmerder. Et en fait, c'est, je le dis parce qu'en fait, aujourd'hui, il va y avoir du sport. Julien et moi, on est potes depuis une bonne dizaine d'années. Mm-hmm. Vous le connaissez sûrement parce que vous avez écouté notre podcast sur Ronin. Et vous avez vu qu'on était plus ou moins d'accord sur le film. Je dis bien plus ou moins. Et je le précise parce que cette fois, on va pas forcément être totalement d'accord sur Terminator 3, le soulèvement des machines de Jonathan Mostow, qui est aussi un film que tu as choisi.
Oui.
Alors, précisons déjà une chose, pourquoi Terminator 3 et pas Terminator 1 et 2 ? Bah, bande de petits malins, on a fait un podcast sur James Cameron il y a quelques années, vous l'avez peut-être écouté, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter, on parle de Terminator 1 et Terminator 2. Donc là-dessus, on a vraiment, vraiment déblayé le terrain. Donc maintenant, on s'attaque à Terminator 3, qui n'est pas du tout un film de James Cameron.
Absolument pas.
Et ça se voit, j'ai envie de dire.
Eh ben, voilà. ça commence, ça va bien se passer.
Mais après, il faut être honnête, c'est un film sur lequel il n'avait pas du tout d'incidence, contrairement à certains films qui se sont faits après, hein, soi-disant sur Terminator Genisys, il avait vaguement donné quelques idées.
La vraie suite de Terminator 3, de Terminator 2, selon James Cameron, je le rappelle.
En fait, il a dit ça entre le moment où on l'a enregistré pour faire sa petite vidéo promo et le moment où le film est sorti, qui s'est planté au box-office. Et en fait, c'est exactement ce qu'il se pensait à ce moment-là, pendant à peu près donc 5 jours. Voilà. Mais depuis, il a fait aussi Terminator Dark Fate, qui est considéré
comme la véritable suite de,
voilà,
Terminator 3,
selon, sauf qu'en fait, globalement, il y a quand même effectivement ce Terminator 3 au milieu, qui date de 2003,
mm-hmm,
qui est donc déjà une suite tardive, hein, faut le préciser, hein, c'est-à-dire 12 ans après l'énorme carton de Terminator 2, en fait, qui était mine de rien, alors un événement un peu pétard mouillé, presque, on a envie de dire, par rapport en tout cas à la franchise, hein, à cette époque-là, dans le sens où c'était le dernier film d'Arnold Schwarzenegger avant qu'il devienne gouverneur
de Californie, hein.
Voilà. Un film sur lequel il a commandé un salaire complètement démentiel. Hein,
30 millions, hein, 30
millions avec des clauses complètement dingues dedans. Notamment un jet, des frais, enfin, de balade.
Qui ne demande pas un jet pour aller au bureau. Enfin,
voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y a... quand je dis pétard mouillé, c'est pas forcément sur la qualité du film en soi, mais sur la réception globale. C'est-à-dire que ça devait être le film qui allait déblayer tout cet été-là, quand même, malgré tout. Hein, et c'était un peu conçu comme ça. Ça reste une prod indépendante, puisque c'est Mario Casar et Andy Vajna qui ont récupéré les droits qu'ils avaient perdus, refondé une société...
qu'ils ont appelé, d'ailleurs, C2 pour Carol Co. 2.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était leur enjeu, un énorme enjeu pour eux, puisque ça faisait quelques années après le beat de L'Île aux Pirates. Alors, Vajna, lui, est parti faire Synergie. Il avait quand même eu quelques succès, hein, dont Die Hard 3, par exemple. Mais pour Kassar, c'était un enjeu hyper important. Alors, là où on n'est pas d'accord, toi et moi, on a eu cette conversation plusieurs fois entre nous, mais c'est assez intéressant, en fait, justement, de pointer ça. Et puis, je pense que, les auditeurs vont faire leur propre... course dans ce qu'on dit, et on, peut-être dans les commentaires, on saura ce qu'ils en pensent, mmh, chacun de leur côté, ça sera aussi intéressant. C'est que là où il y a débat, c'est que moi j'ai cette impression, quand je me suis tapé le film, et en fait j'ai encore cette impression quand je le revois aujourd'hui, que c'est un film qui apporte finalement très peu de choses à la saga, par rapport à ce que le premier et le deuxième film en fait ont créé. Et toi, en fait, souvent, quand on en a parlé, toi et moi, tu m'as dit non, je suis pas d'accord.
C'est vrai.
Alors,
jusque-là, c'est vrai.
Voilà, on va pitcher Terminator 3 vite fait. Donc ça, on spoil, hein, on le précise, hein, pour voilà. Après, il paraît que c'est un film qui n'existe plus, hein, puisque.
Si, il existe toujours.
Voilà. Puisqu'apparemment, il est censé être effacé par Terminator Dark Fate, mais bon c'est mal encagé parce que ça, pour le coup, ça a été un vrai bide.
Tu l'as, ouais, un vrai de vrai. Alors voilà. Que Terminator 3 se tape une réputation de vilain petit canard pas vraiment méritée. C'est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui ont aimé le film. Enfin, le film, il a quand même rapporté pas loin de 500 patates pour 170 de budget. C'est un succès.
Oui, c'est un succès. Et surtout, le truc, c'est qu'après, je pense que c'était pas un succès aux attentes à cette époque-là, hein, d'un Terminator, en fait. Exponentiel, on va dire. Parce que ces 500 millions, c'est ce qu'a rapporté le 2.
Le 2, 12 ans
avant. Mais avait 12 ans avant, avec l'inflation, c'est, voilà, c'est pas tout à fait.
Le 2, même. Il serait aujourd'hui, il ferait partie du club des milliardaires.
Voilà, c'est ça. Terminator 3, donc, le jugement dernier n'a pas eu lieu à la fin du 2. Mmh. Le personnage de John Connor erre dans les rues de Los Angeles. Il n'a pas accompli son destin par la force des choses. Un Terminator est envoyé sur Terre pour le protéger parce qu'il y a une Terminatrice en fait qui vient le tuer. Et du coup, dans cette intrigue assez linéaire, hein, le Terminator débarque au moment où le vrai jugement dernier va arriver. Et l'idée, c'est que au milieu de tout ça, il y a un personnage qui est le personnage de Claire Danes, qui est un personnage féminin qui va devenir la femme de John Connor et qui apparaît en fait dans. Ils se rencontrent à ce moment-là aussi.
Catherine Brewster.
Et là, ça devient donc une espèce de longue course poursuite pour essayer d'empêcher d'abord le soulèvement des machines, hein, dont qui est dans le titre, et ensuite éventuellement la fin du monde. Et alors. Obligatoire, on va spoiler la fin.
On est obligé.
Je pense qu'on peut pas.
On est vraiment
obligé.
Donc, moi, c'est même si Stéphane et moi ne sommes pas forcément d'accord sur le film, si vous êtes intéressé par le film et que vous l'avez toujours pas vu, voyez-le avant parce que la fin, c'est quand même un gros morceau.
Voilà. Ouais. Et je pense que c'est même le seul truc sur lequel on est tous d'accord. Hein. C'est le truc qui est plus ou moins réussi pour moi dans le film. Quoi. Je pense que c'est même une des raisons pour lesquelles Mosto a dû accepter de faire le film en soi. Maintenant, alors, je vais te laisser parler. En fait, pour toi, tu considères que c'est la meilleure suite, la meilleure suite après évidemment les films de James Cameron, ce qui bon, certains argueront que c'est pas si difficile que ça finalement. Hein.
J'aime bien les Terminators, sauf Genesis avec lequel
mais personne n'y arrive pas. Même la mère du réalisateur n'aime pas Genesis. Quoi.
Va savoir. Ouais. Même Jay Courtney n'aime pas Genesis.
Jim Courtney en même temps de la carrière. Quoi.
Un grand acteur avec un charisme de fou.
Voilà. Bon après, donc ouais, je te laisse donc défendre. Fais ton argumentaire pour la défense de Terminator 3, le soulèvement des machines.
Bah, mon argumentaire, enfin, je ne sais pas tant si c'est une défense que plutôt la passion d'un homme qui aime réellement le film. Là où moi je trouve que c'est un apport à la franchise, c'est que pour moi, et c'est discutable, mais pour moi, l'un des fondamentaux de Terminator, c'est la notion de destin. Ça a toujours été vrai. Et donc, est-ce qu'on peut contrarier son destin ou est-ce que tout est écrit d'avance ? Le premier film te disait bah, « tout est écrit d'avance » et le faisait extrêmement brillamment, hein, là-dessus on est entièrement d'accord. Le deuxième te disait en fait « non, il y a ce célèbre truc qu'elle,
No fate but what we make »,
qu'elle trace sur une table. Et donc il disait « non, en fait, le destin, on peut le changer ». Et le troisième revient là-dessus en disant « en fait, vous n'avez pas changé le futur, vous l'avez déplacé ». Et je trouve que c'est un concept qui en soi est fascinant de se dire qu'on peut se battre tant qu'on veut contre un destin déjà écrit, on ne pourra que le modifier, mais pas le transformer. Et je trouve qu'en soi, c'est... Mais vraiment, ça fait pour moi du bien à la franchise. Un autre truc que je trouve très intéressant, c'est que Terminator 1 est le film de Sarah, et bien entendu de Kyle Reese, mais c'est le film de Sarah. Donc c'est l'histoire d'amour de Sarah et de Kyle. Le deuxième film, c'est l'histoire de Sarah et de John. Et le troisième film se dit « Ok, mais comment on peut renouveler un petit peu ce qu'on racontait ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire revenir Sarah ? Puisque son arc, globalement, après le 2, il est fait. Elle a accompli son rôle de mère, elle a accompli son rôle de mère du sauveur de l'humanité, donc par extension de sauveuse de l'humanité, parce qu'elle a quand même fait 2-3 trucs. Et donc ils se sont dit « Ok, bah, le troisième film sera le film de John. » Et là où je trouve le truc intéressant, c'est qu'on fouille la psyché d'un homme qui dit « Mais vous me faites chier avec mon rôle de héros, je ne l'ai pas demandé, moi. Je ne veux pas de ce rôle-là. Je n'ai pas les épaules pour l'avoir. » Lui se sent comme un type tout à fait normal. Et donc, parce que tu disais, il y a une Terminatrice qui vient dans le passé pour tuer John, bah en fait, non, c'est ça. C'est un des trucs intéressants du film, c'est qu'elle vient dans le passé pour tuer les lieutenants de la Résistance. Pourquoi ? Parce que John
Non, je t'en prie, vas-y. Mais j'allais dire, je rajoute juste une précision. Ça, c'est intéressant, effectivement, dans le film. Après, ça ressemble un peu à l'ouverture du premier Terminator. C'est-à-dire qu'elle vient, dans la façon dont c'est démontré, c'est que même si ce n'est pas les lieutenants qu'elle vient tuer, en fait, de la même manière que le premier Terminator se pose la question de savoir qui sont les Sarah Connor, les différentes Sarah Connor de Los Angeles, et il en bute 4-5 avec le même nom, pour être sûr d'avoir la bonne, quoi. Là, en fait, elle va chercher 4-5 personnes, et elle est dans une espèce de nuit meurtrière, de la même manière, en fait, où elle va éliminer les ennemis. Et c'est à peu près fait de la même façon, c'est ça que je voulais dire.
Structurellement, effectivement, c'est la même chose. Maintenant, d'un point de vue de ce que ça raconte, je trouve ça super intéressant de dire, OK, bon, en fait, on a perdu le mec qui va gagner, puisque Skynet donc, veut empêcher ce type-là d'aider à gagner la guerre. On ne sait plus quoi faire. OK, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie notre Terminator dans le passé pour buter tous ces lieutenants, parce que peut-être que si on fait le vide autour de lui, ça suffira. Et dans cette nuit-là, par un concours de circonstances, sur la liste de ces lieutenants, il y a Catherine Brewster, sauf que c'est en même temps la nuit où Catherine Brewster et John Connor vont se rencontrer, et c'est une personne qui deviendra très importante dans la vie de John Connor, puisque c'est la femme forte dont il a besoin, et au final, qui est son bras droit et sa femme. Et donc, du coup, tu te retrouves effectivement avec cette Terminatrix qui goûte un pansement, parce qu'en fait, sur la langue, elle a des nanomachines super méga powerful qui font qu'elle peut connecter l'ADN directement.
C'est notre côté scientifique où on sait exactement de quoi on parle.
Évidemment, voilà. Parce qu'on est super fort en physique quantique, voilà. Et en biologie en même temps. Et elle goûte donc en espérant trouver Catherine Brewster. Et là, elle a cette réaction. D'ailleurs, Jonathan Mostow avait dit « Je voulais que Christina Loken ait une tête presque comme si un robot avait un orgasme. » C'est-à-dire que tout d'un coup, la cible numéro une a été retrouvée. Et pareil, c'est ça. Alors qu'on partait sur un film dont on pensait que la dynamique allait être OK, c'était un petit peu différent. On repart sur un Terminator plutôt classique qui t'emmène donc
Terminator 2.
Oui. Mais qui t'emmène dans une poursuite. Les Terminators fondamentalement sont des poursuites. Et qui va ensuite utiliser pas mal d'humour qu'on a reproché au film en disant oui, mais il déconne trop. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette façon de déconner, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs blagues, certaines drôles, certaines moins drôles, chacun voit midi à sa porte, mais elle te prépare tout doucement à ce côté inéluctable. Et ce côté inéluctable-là, moi, je le trouve absolument fascinant. C'est-à-dire que quand tu vois le film la première fois, tu ne sais pas. Tu penses que tu vas voir un film classique dans lequel les gentils vont gagner à la fin. Et quand tu le vois une deuxième fois, tu t'aperçois en fait que le côté inéluctable, pendant tout le film, le T-800, donc Schwarzenegger, te le dit. Non, mais... Ça va arriver. Le jugement dernier, ça va arriver. Donc, vous le compreniez.
C'est
ça
vrai
arriver.
Qu'il y a une tromperie de spectateurs, parce que, en fait, enfin, une tromperie de spectateurs pour le bien de ce que ça raconte. Hein. Parce que, justement, en fait, quand il se retrouve en face du père de Catherine Brewster, qui est une des personnes qui, entre guillemets, travaille sur le nouveau Skynet, en fait, via le nouveau Skynet. Enfin, c'est Skynet en l'occurrence, c'est toujours Skynet.
C'est toujours Skynet, celui-là. Ouais.
Il travaille sur Skynet. Mais c'est plus Cyberdyne, pardon. Ouais,
c'est ça.
C'est un autre terme. Que j'arrive pas à me rappeler parce que c'est moins iconique que Cyberdyne, excuse-moi.
Tu veux dire le
nom ouais, de leur truc, mais c'est pas grave. CSR ou je sais pas quoi, CRS.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. C'est CRS.
Voilà, allez, on va dire. Tu vois. Je sais plus exactement comment c'est. Mais le truc, c'est que ce personnage-là leur dit voilà, il faut que vous alliez là. Et en fait, eux sont persuadés que c'est pour arrêter la guerre. Et en fait, c'est encore autre chose. Mais ça, on va y venir après. Ouais. Ton plaidoyer est terminé ou est-ce que tu as encore des choses à dire? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai quelques questions du coup par rapport à ça et c'est assez intéressant de les confronter parce que, en fait, c'est sélectif la logique du destin là-dedans. Et notamment par rapport à ce que tu m'as envoyé, ce que tu me donnes comme information et ce que tu précises, tu vois, c'est que, ok, on parle du destin de John Connor, c'est le destin de John Connor, mais par exemple, le destin de ses lieutenants, c'était d'être des lieutenants avec lui et comme ils se font buter là, bah, leur destin est coupé et court.
Oui.
Donc il y a quand même beaucoup de questionnements vis-à-vis de ça. Et moi justement, en fait, le problème que j'ai de manière générale, en fait, avec cette logique de revenir à le destin inéluctable que tu ne peux pas arrêter, même si le film va dans cette direction-là, je suis d'accord avec toi, puisque de toute façon la fin le démontre, c'est que c'est quand même hyper pratique pour lancer une suite. C'est-à-dire que en gros, pendant longtemps, il y avait, alors ça, j'adore cette anecdote, je la trouve absolument géniale. Mais c'est tellement James Cameron que je suis sûr qu'il l'a sorti pour de vrai et qu'en plus, si on lui avait donné les moyens, il l'aurait fait. Quand il a été question de récupérer les droits de Terminator 3, Kassar et Vajna sont allés voir Cameron pour lui dire bon, on a les droits, qu'est-ce que tu veux faire? Et en gros, Cameron sortait à ce moment-là de Titanic. Qui est donc le plus gros film de l'histoire du cinéma à ce moment-là, le plus gros carton, le truc totalement inattendu. Et il a refusé tous les projets sur lesquels, à la base, il était engagé depuis quelques années, c'est-à-dire un Terminator 3, parce qu'il y avait il était question qu'il en fasse un, contrairement à ce qu'il a dit des années après, où il disait « Non, moi, je n'ai jamais voulu faire un troisième film. » Je pense qu'il en était vraiment question. Hein. Je pense qu'il avait une trilogie à boucler. Et il y avait Spider-Man, par exemple, qui finalement est tombé dans les bras de Sam Raimi, avec des idées de son scénar à lui, hein, d'origine. Et donc, en fait, c'est des films qu'il a refusés. Et il a mis 12 ans à faire Avatar derrière. Quoi. Et notamment, la grosse anecdote qui m'a fait hurler de rire, je l'avais peut-être raconté d'ailleurs dans le podcast sur James Cameron, c'est « Moi, je veux bien faire Terminator 3, mais si vous me laissez faire péter une vraie bombe nucléaire. » ce qui est complètement...
Ça lui ressemble.
C'est-à-dire que je pense que c'est une manière de dire « Allez, foutez-moi la paix, j'ai pas envie de faire le film. » Mais d'un autre côté, si les mecs lui avaient dit « Allez, banco », tu vois, s'il y avait un mec aussi fou que lui, tu vois, il aurait dit « Ouais, je le fais, on y va. » Tu vois. Donc le truc, c'est que je pense que c'est assez révélateur du bonhomme. Et en plus, c'est cohérent parce qu'il y a des explosions atomiques dans Terminator 3, bref. Mais on va y revenir aussi. Donc là, il y a déjà ce premier questionnement où je pense que c'est très pratique de dire « Ouais, mais en fait, le destin, il existe parce qu'en fait, on a besoin de faire une suite. » Avec ou sans James Cameron, tu vois, avec tant qu'on a Schwarzenegger, etc. Donc je pense qu'il y a déjà cette première problématique-là. Ensuite, il y a quand même une grosse notion de suite. C'est-à-dire que moi, ce qui me pose un peu problème avec le Terminator 3, c'est que ce qui fait vraiment avancer l'intrigue, et là j'entends tout ce que tu as dit et je comprends, jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, alors dans les faits, le film est fait, hein, donc voilà, mais en fait, l'idée c'était de récupérer Sarah Connor et de la faire mourir au milieu. Et je pense qu'un des manquements du film, c'est comme ils n'ont pas eu Linda Hamilton parce qu'elle s'est dit, moi ça ne m'intéresse pas en fait, de faire un film où j'apparais la moitié du film et puis voilà. Et je pense qu'elle le faire sans Cameron à l'époque, ce n'était pas forcément pour elle quelque chose de plus. En 2003, on va dire, en 2002, c'était moins intéressant qu'en 2018 ou en 2019 avec Dark Fate. Et elle s'est dit, je ne le fais pas. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et si elle n'est pas au milieu, même si on ne la fait pas crever, elle a disparu. Et je trouve que faire mourir Sarah Connor d'un cancer quand tu sais que c'est une combattante...
Moi, j'ai trouvé ça superbe. J'ai vraiment trouvé ça beau. C'est-à-dire qu'effectivement...
Moi, ça manque de la scène pour le vendre, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas la scène, mais j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de délicatesse et de dire... en fait, ce personnage est resté un combattant jusqu'au bout. Elle avait une leucémie au stade terminal et elle a attendu le 29 août 1997...
Pour être sûre qu'il n'y ait pas...
Pour être sûre, alors qu'elle aurait dû crever avant. Je trouve que c'est... En fait, c'est une belle fin pour une combattante. Est-ce qu'elle manque au film? C'est quand même un personnage extrêmement important, donc moi, elle ne me manque pas parce que j'adore le film, mais je peux tout à fait comprendre qu'elle peut manquer.
Il manque une porte de sortie, une vraie porte de sortie, et c'était dommage de la bazarder en deux lignes de dialogue, je trouvais. C'était ça le truc. Et enfin, il y a cette notion que, en fait, comme je le disais, c'est une suite avec, en fait, je pense, beaucoup de passages imposés. C'est-à-dire notamment, par exemple, la scène où le Terminator arrive, il arrive de la même manière que dans le 1 et dans le 2, mais surtout, en fait, il va chercher ses fringues en fait, en faisant une espèce de parodie de la scène du 2. Quoi. Ce qui est déjà, pour moi, un petit peu problématique, parce que je me disais, tu te tapes le 2, t'as Bad to the Bone, il est dans un truc de comment t'appelles ça
De biker.
De biker, c'est des mecs qui lui pètent les couilles et tout ça, et il les défonce. Là, il arrive, il est dans un club avec un Chip and Dale, et en gros, la musique, c'est Macho Man, et le gag, c'est quand il met ses lunettes, c'est des lunettes d'Elton John. Alors, c'est évident que l'idée, c'est « Allez, on va vanner le truc ». Mais tu sens qu'en fait, alors je ne sais pas de quel fait c'est, je ne sais pas si c'est les scénaristes, je ne sais pas si c'est Mosto, je ne sais pas qui, mais tu sens qu'on lui a dit « Tu refais cette scène-là, elle était importante, elle est iconique, les gens l'aiment, donc il faut la refaire ». Et lui, il s'est dit « Je ne peux pas la refaire, en fait, ça ne sert à rien, je ne la referai pas aussi bien ». Donc autant que je m'en foute de la gueule de la scène. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ironie qui déjà n'est pas forcément l'apanage total du film. On a l'impression que c'est plus Arnold en fait qui s'est dit moi je peux parce que les gens aiment les vannes en fait du Terminator donc je vais jusqu'au bout et je continue. Donc il y a le moment où il dit parle à la main, Et bon, moi personnellement, il y en a peut-être effectivement comme toi une ou deux qui me font marrer et deux autres où je me dis c'est quand même un peu embarrassant. Là, je vais faire un saut dans le temps. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui reprochent à Schwarzenegger de porter des shorts en fait dans Dark Fate par exemple, ou de boire de la bière, ou de faire des tequilas, ou je sais pas quoi. Mais pour moi, ça a commencé là déjà. C'est-à-dire que en fait, en gros, à partir du moment où il met les lunettes d'Elton John, je vois pas où est le problème. En fait, si ça vous fait rigoler, je vois pas où est le problème avec Dark Fate arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que je pense qu'on arrive à. Et puis en plus, il y a la persona d'Arnold qui a vraiment pris le dessus sur le Terminator aussi, avec le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'ère d'Internet. quand il fait de la promo, il a fait de la promo en Terminator, il fait le couillon dans les musées Grévin en se faisant passer pour une statue du Terminator, etc., etc. Donc voilà, là je faisais ma petite aparté sur les gens qui reprochent ça dans Dark Fate, alors que je pense que l'origine elle est déjà dans Terminator 3. Et indépendamment de ça, en fait, je trouve que les deux vrais apports, c'est-à-dire si on enlève la mort de Sarah Connor, en fait, sa disparition du film, qui est effectivement un apport par défaut, on va dire, sur la mythologie, ça y est, elle est morte. C'est-à-dire que, voilà, je trouve que sa mort ne pèse pas totalement sur le film, c'est ça qui me pose aussi problème. J'aurais aimé qu'elle soit présente un peu, pour faire une analogie, un peu comme le fait qu'Adrienne est morte, en fait, dans Rocky Balboa, mais en fait, elle est présente tout le temps, tu vois, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on sent son manque, en fait. Là, je pense que ça aurait été important. Après, t'as l'impression qu'ils se sentent obligés. Alors, il y a une grosse poursuite dans Terminator 2, on va faire une très grosse poursuite dans Terminator 3, avec d'ailleurs un gag que j'aime beaucoup, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un moment donné où ils sont en train de traverser des jardins, et t'as une bagnole en fait qui part sur un espèce de, comment t'appelles ça,
de piscine à ballon pour enfants,
ouais, un truc géant qui fait bruit, c'est comme ça. Et en fait moi j'ai trouvé ça super drôle parce que c'est le genre de gag qui me fait marrer,
mais c'est absurde,
ouais,
c'est...
voilà, en plein milieu du truc, et j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus des petits trucs comme ça en fait marrants, plus que on fait gonfler les nichons de la Terminatrix, tu vois, ou ce genre de truc où je trouve ça un peu,
mais ça moi j'ai pas trouvé que c'était une blague, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, mais malheureusement pas exploité.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle regarde une affiche Victoria's Secret, elle voit donc des push-ups, et elle se fait monter les seins puisqu'elle va se faire contrôler par un flic. Et t'aurais pu dire, en fait, elle va se servir de sa sexualité au travers du film, mais vu que ce n'est pas exploité, effectivement, ça devient juste une blague, et tu fais bon...
Voilà, et puis surtout, elle n'en avait pas besoin pour buter le flic, en fait, si tu veux.
Oui, vu ce qu'elle en fait derrière, voilà, effectivement.
Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où c'est... Bon, vous avez vu, c'est une gonzesse qui joue le Terminator cette fois, tu vois. Donc ça fait un peu... Je trouve que ça, c'est clairement, pour le coup, c'est une idée.
Là où je te rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de choix de ce film qui ont été faits en fonction de Terminator 2.
Voilà.
Il y a parfois des fois où...
Et du succès de Terminator 2, de la popularité. Ouais.
Il y a des fois où il a du mal à exister par lui-même.
Voilà.
Le fait de prendre... Au début, si je me souviens bien, il y avait eu des discussions pour avoir Vin Diesel dans le rôle du Terminator. Qui n'ont pas abouti, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée.
Bon, après, elle n'est pas terrible, Kristen Loken. Hein,
non, mais le fait de le faire en réaction et de dire bon, bah, on va prendre une femme apporte une nouveauté qui n'est pas extra exploitée, mais qui n'est pas inintéressante en soi. Enfin, je trouve. Les blagues sont faites en fonction de Terminator 2. Il y a d'ailleurs, sur le commentaire audio que j'ai écouté pour ce podcast, Mosto dit un truc intéressant justement sur la scène des lunettes. Il dit en fait, sur la scène donc où le Terminator arrive sur Terre, etc., dont tu as parlé, il disait en fait, je me suis arraché la tête avec les scénaristes pour dire mais comment on va faire quelque chose d'original par rapport à ce qu'avait fait Cameron par deux fois, et c'était renouvelé par deux fois, et il disait mais en fait je me suis dit j'y arriverai pas, parce que Mosto a cette humilité d'artisan, et il s'est dit j'y arriverai pas, les pompes de Cameron elles sont quand même grandes, donc je vais essayer plutôt d'y aller par une pointe d'humour, parce qu'en plus cet humour là me permettait de désarçonner mon spectateur qui s'attendait pas à ça, et de dire ok, si je réussis à les faire marrer à cet endroit là peut-être que derrière ils sauront pas à quoi s'attendre. Donc c'était aussi une façon de conditionner son spectateur pour l'amener une fois de plus à cette fin extrêmement dramatique.
Alors oui, alors après, on va y arriver à la fin. On va en parler vers la fin du podcast, mais avant d'en parler...
Hyper cohérent.
Voilà. Non, mais en plus, moi je pense que c'est justement, comme tu dis, c'est presque pas... En fait, voilà, on va en parler plus tard. Mais en fait, je voulais aller sur deux points en fait, spécifiques, en fait, qui pour moi en fait, sont les deux points qui apportent une distinction en fait, dans l'avancée de la mythologie Terminator, on va dire, sur celui-là. C'est déjà la première notion, en fait, que le Terminator qu'on voit dans le film est le Terminator qui... Parce que ça, c'est la problématique de Mosto, je trouve, en fait. C'est que Mosto, c'est un bon cinéaste, un bon artisan. Après, je pense que c'est un mec qui est plus dans le... C'est-à-dire, il est plus efficace dans un, on va dire, un contexte un peu réaliste. Dès qu'il faut travailler la science-fiction, c'est cheap, je trouve, chez lui. C'est-à-dire que c'était déjà un peu le cas dans Terminator 3. C'est clairement le cas dans Clone, le film qu'il fera après.
C'est un film compliqué, quoi.
Voilà. Et en fait, je le trouve plus efficace sur Breakdown, je le trouve plus efficace sur U571, en fait, où il est dans un cadre, on va dire, dans un environnement réaliste, crédible. Et voilà, il travaille avec cette matière-là. Et du coup, il y a tout un tas de trucs avec le Terminator, pour moi, qui ne fonctionnent pas du tout. C'est-à-dire que le côté Boris Karloff là, de la scène où en fait, il est manipulé pour redevenir plus ou moins méchant, et en fait, si tu veux, t'as Arnold qui n'a jamais été un très grand acteur non plus. Hein. Il joue très très bien le Terminator, mais bon, voilà. D'un seul coup, quand tu lui fais jouer la décision de est-ce que je tue ou je tue pas, en fait, est-ce que je suis mon protocole, est-ce que je suis ma mission d'origine, est-ce que je suis ce qu'on m'a reprogrammé, tu vois, pour buter John Connor.
Pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc il y a un moment, l'un des pouvoirs des capacités de la Terminatrix, c'est la capacité donc d'influer directement sur des machines. Le Terminator étant une machine, en fait, elle l'influe et elle change sa directive pour la retransformer en tue John Connor.
Voilà. Et lui, comme il est venu pour le protéger, il y a un conflit intérieur. Sauf que la scène, il a 5 fois l'occasion de le buter. C'est-à-dire entre le moment où il l'attrape et il l'envoie voler dans tous les décors. Et surtout, ça se termine. Ce que je dis, c'est une scène à la Boris Karloff. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une scène à la Frankenstein. Tu vois, où il est en train de taper, en train de grogner, en train de faire comme ça pour éviter de. Voilà. Et cette scène, qui aurait dû être dramatique, importante et tout, elle en devient ridicule. C'est-à-dire, pour moi, elle est littéralement ridicule. C'est-à-dire, même en la revoyant, c'est la première fois que je me la suis tapée, je me suis dit, ouais, c'est chaud, je peux comprendre sur le papier. Mais plus je la revois et plus je me dis, en fait, ça fonctionne pas, elle est ratée, en fait. Dramatiquement, elle est ratée, enfin, à mon sens. Hein. Et du coup, elle est d'autant plus ratée qu'il y avait une idée très forte, je trouve, dans le scénar, qui est une des rares idées, je trouve, qui fait vraiment évoluer, pour moi, la mythologie. C'était que ce Terminator-là, qui n'est pas le même Terminator que dans le 2, puisque dans le 2,
Il est mort. Hein,
non, mais je le précise parce qu'en fait, le film s'ouvre avec John Connor qui fait « Ah, mais tu te rappelles de moi ?» tu vois. Et en fait, ça, c'est quand même une scène pas très bien écrite, pas très bien surlignée au stabilo pour te dire, pour faire comprendre aux gens, mais le Terminator que vous voyez, c'est pas le même que dans le 2. Rappelez-vous, si vous avez oublié, vous êtes allé bouffer un popcorn.
C'est aussi une scène qui a pour but, me semble-t-il, de montrer que John Connor a malgré tout un attachement maintenant à cette machine, alors que cette machine est de base un tueur.
Oui, c'est surtout que c'est pas la même, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, ce qui est problématique pour moi dans cette écriture-là, c'est que je sens qu'on s'adresse au spectateur à ce moment-là, plus qu'à John Connor, et que John Connor passe un peu pour un idiot qui n'a pas compris que c'était pas la même chose, la même machine.
Je trouve qu'on voit, et le film me présente.
Tu vois, on n'est pas d'accord. Ne me frappe pas, Julien, s'il te plaît.
Le film montre pendant tout le film un personnage à la frange. Mmh. À la frange parce qu'il est paumé, à la frange parce qu'il ne veut pas vivre, à la frange parce qu'il ne veut pas de ce destin, comme le prouve une scène où il se fout un flingue sur la tempe en disant vous commencez tous à m'emmerder. Et donc, du coup, cette scène, je ne vais pas te dire qu'elle est extraordinairement réussie et qu'elle me fout les larmes aux yeux, je te mentirais, mais je ne la trouve pas totalement déconnante.
Là, on parle de la scène où il essaye de le tuer.
De la scène où. Dont tu parlais, où il dit « tu te souviens de moi ».
Ah oui, d'accord.
Parce que le personnage est à la frange, il est à la limite de devenir dingue, le gars, parce qu'il a un destin dont il ne veut pas, il sait pas quoi en faire.
Alors moi, je trouve que c'est pas écrit comme ça, mais c'est pas grave. Enfin, le truc, en tout cas, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un truc où Mosto se dit « faut que je sois clair, il faut que les gens comprennent, donc je vais le bazarder là ». Et bon, les scénaristes ne sont pas James Cameron, donc je pense qu'ils ne sont pas...
Là-dessus, on est obligé d'être d'accord.
Track sur Internet et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, bref,
Terminator 3 et Terminator Renaissance, donc ils ont aussi fait des travaux intéressants, ces deux messieurs. On va oublier Track sur Internet, j'étais sûr que tu allais le
voir. J'aime bien, mais il faut parler de Track sur Internet, que personne ne se rappelle. Donc
il y a des raisons pour lesquelles on ne s'en rappelle pas, parce que ce n'est pas bien.
Parce qu'en fait, c'était un suspense à 56K. Ils étaient en train de cliquer sur le truc, putain, j'avais arrivé à envoyer ce virus de 2K pour... Bref.
Ils ont aussi écrit The Game de Fincher.
C'est vrai. Salut.
Donc bref. Bon, ok, t'aimes pas Brancato et Ferris, donc c'est vrai.
Mais le truc, c'est que donc ils ont une idée. Je sais pas si c'est eux, je sais pas si c'est Mosto, peu importe. Mais c'est une bonne idée, je trouve. Et c'est cette idée que ce Terminator, donc ce modèle de T-800, qui est là en fait, c'est celui qui a tué John Connor dans le futur. Et du coup, en fait, la Catherine Brewster leur programme, leur envoie pour le protéger. Et donc du coup. Ça, c'est une super idée, et je trouve que malheureusement, en fait, la scène dont je parlais, où il est reprogrammé, et en fait, il a ce conflit, ça sabote un peu cette belle idée, parce que c'est une idée, je trouve, qui faisait clairement avancer la mythologie, c'est-à-dire qu'en gros, effectivement, ça marche mieux quand on t'explique ça, et qu'il a cet attachement au personnage, et qu'en fait, c'est pour ça qu'il a été choisi pour le buter, tu vois, dans le futur, c'est une scène qu'on voit pas, hein, tu vois, mais c'est une scène qui est expliquée, je trouve qu'il y a un truc, en fait, d'assez touchant. Et évidemment, l'autre gros apport important, primordial, c'est la fin. Et en fait, on y vient, c'est-à-dire qu'en gros, mais il y a un côté inéluctable, certes, parce que ça s'est avancé, c'est pour le coup bien travaillé dans le film, mais en même temps, la question de savoir est-ce que c'est un happy end ou pas, est-ce que bon, on peut débattre vraiment. Moi, j'ai envie de dire, quand tu vas voir un Terminator et qu'en fait, à un moment donné, en fait, depuis le premier, on est tous en train de fantasmer sur la guerre entre les humains et les machines. Bah, c'est presque un happy end, en fait, que ça se termine de cette manière-là, d'une certaine manière, parce que...
Oui et non, parce que là, effectivement, là, c'est...
Mais c'est en fait...
Là, tu parles en tant que spectateur. Dramaturgiquement, c'était pas gagné d'avance.
Qu'ils arrivent à le faire.
Qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout, et d'un point de vue non plus dramaturgique, mais business, d'avoir un film à 170 patates qui se finit avec une fin méga dépressive, parce que moi je me souviens, je l'ai vu en salle, et ça rigolait quand il mettait les lunettes d'Elton John, et ça rigolait quand il disait par la main, et il n'y avait plus une respiration dans la salle à la fin du film. Alors c'était dingue de ressentir ça, parce que j'étais pareil qu'eux, hein. C'était, on était tous... Oh, ah ouais, ils ont été jusqu'au bout.
Donc voilà, donc le jugement dernier a lieu, et donc en fait, en gros, la Terre, il y a des très belles images en fait, de la Terre en train de s'autodétruire sous les missiles atomiques.
Voilà, ça arrive dans cet endroit où les a envoyés le père de Catherine Brewster, ils descendent, et jusqu'au dernier moment, le niveau technologique...
Ils
sont persuadés qu'ils vont tuer le système corps. Je suis désolé, je l'ai regardé en anglais, du coup je fais un anglicisme horrible. Et quand ils arrivent en bas, ils s'aperçoivent que pas du tout.
C'est un bunker.
Que c'est un bunker et qu'en fait, le père, il les a envoyés là donc pour une seule raison, qu'ils survivent, puisque c'est un bunker anti-atomique.
Ouais.
Et donc, le film se termine sur un discours de John Connor en voix off, qui explique quelque chose de tout bête. On est en 2003, hein, donc l'Internet est, ça y est, bien arrivé dans nos chaumières. Mais il nous le rappelle juste en disant, mais on ne peut pas aller détruire l'unité centrale de Skynet. Il n'y en a pas. En fait, Skynet, il est partout. Skynet, c'est toutes les machines en serveur qui sont devenues une singularité, qui sont devenues un esprit qui vit. Et donc, du coup, bah, il explique que ouais, ça ne pouvait pas finir autrement que par la destruction de l'humanité, 3 milliards d'êtres humains qui meurent.
Voilà. Et donc, le truc, c'est que tu as ces belles images, tu as une très belle musique de Beltrami, qui d'ailleurs, étrangement, et ça, je crois que c'est du fait justement des producteurs, n'utilisent absolument pas le thème de Terminator, sauf dans le générique de fin. Et ça, je pense que je l'avais interviewé à l'époque, justement, et je sais plus, on avait pas parlé de ça parce que j'avais pas encore vu le film, mais en gros, il avait laissé sous-entendre que c'était un film compliqué dans le sens où, pour lui, il y avait en fait un thème hyper iconique. Et en gros, quand je lui ai posé la question autour de ça, il m'a dit « Vous verrez, mais en fait, il n'est pas primordial pour le film. » Et il y a malgré tout un très beau thème musical à ce moment-là, je trouve, en fait, qui participe aussi beaucoup à l'émotion de la séquence. Quoi.
Qui s'appelle le JC thème de John Connor.
Ah ouais, je ne savais pas. Je n'écoute pas la BO à part, mais c'est vrai qu'en revoyant le film, je me suis dit « Ah, c'est quand même un joli passage, et Beltrami a fait un super travail là-dessus. » Et pour moi, en fait, alors c'est marrant, c'est que je ne l'ai pas pris du tout comme un truc dépressif. C'est-à-dire que je l'ai vraiment pris comme un truc de « Ah, les festivités vont vraiment commencer ». C'est-à-dire que normalement, dans le prochain film, on devrait ne pas être trop attaché à faire une sorte de remake presque non avoué de Terminator 2. Quoi. C'est-à-dire que c'est... voilà, pour moi, c'est la grosse problématique du film, et je pense que c'est la problématique que la plupart des gens ont. On a fait, il y a quelque temps, un podcast avec Julien Dupuis sur Die Hard 2, où on parlait complètement de ça, c'est-à-dire en fait l'idée que à un moment donné on est tellement dans une logique de suite qu'on refait des moments clés, et c'était le cas de Die Hard 2 en fait vis-à-vis du premier, en essayant vraiment de satisfaire, on va dire, les spectateurs qui ont aimé le film d'origine. Alors là, c'est pas le film d'origine Terminator 2, mais c'est clairement un film qui est complètement différent du premier, et en même temps totalement cohérent. Et du coup, je pense que c'est à l'époque où Terminator 3 sortait l'une des problématiques du film, c'est-à-dire que en gros, même si Mosto a effectivement une aura de bon artisan, de quelqu'un qui fait des films carrés, qui fonctionnent et tout, ce qui est le cas, hein, Terminator 3 jusqu'à un certain degré, il était limité par je pense, la problématique des producteurs qui voulaient vraiment s'assurer qu'ils avaient un film dans la lignée de leur plus gros succès, c'est-à-dire Terminator 2. Donc se refaire complètement après le beat de Léo Pirate, être sûr de ne pas rater leur coup sur ça. Et après, je pense, les limites des scénaristes aussi en soi, parce qu'il faut être honnête, encore une fois, il y a, je pense, en fait, beaucoup de choses qui font que... Voilà, et du coup, ce qui fait que c'est un film où on peut être satisfait, comme moi, par exemple, en tout cas, c'est mon cas, sur l'aspect bourrin.
Parce que oui, en plus, voilà. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même des scènes d'action de façon relativement régulière.
Moins une. La scène des soulèvements des machines que je trouve quand même extrêmement cheap. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je sais pas toi, mais moi je me rappelle que ça avait été un gros souci parce que je m'étais dit, ah, t'as une putain de scène de poursuite en bagnole au début qui est quand même assez efficace, assez bien foutue.
Monstrueux. Hein.
Assez énorme. C'était l'été où il y avait trois grosses poursuites dans les blockbusters hollywoodiens. T'avais Bad Boys 2, t'avais celle-là et t'avais Matrix Reloaded. Et mine de rien, elle tenait quand même la dragée. Elle est assez chouette.
Quelle belle année 2003 quand même.
Ah ouais. Et surtout Bad Boys 2. Hein,
j'étais sûr de dire ça. Voilà.
Mais il y a ce truc en fait où donc ça c'était hyper réussi. Et du coup en fait le soulèvement des machines, En vrai, j'en fais une blague. À chaque fois, je dis c'est le soulèvement des machins, quoi. Parce que, en fait, en gros, tu te retrouves avec, avec quand même deux machines un peu pétées, tu vois, avec un design en plus, moi, je trouve. Mais, alors, je comprends, hein, vis-à-vis en rétro design, on va dire, vis-à-vis de ce que Cameron a fait dans le premier, dans le deux. Je comprends qu'il y ait, comment dire, qu'ils se sont dit, bon, faut qu'on. C'est le T1.
Il s'appelle littéralement le T1. Hein.
Mais en fait, le T1, on dirait un beau Fabière, quoi, avec un bide et tout qui se pointe avec deux
mains. Mais tu dis n'importe quoi.
Mais si, il a un côté, bah, à chaque fois,
on dirait un tank.
On dirait qu'il a un bide. Tu vois, bref.
Et donc, je suis gaulé comme un Terminator, c'est assez cool, en fait.
Non, voilà. Et le truc, c'est que si tu veux, t'as ce truc. Où finalement c'est des combats dans le couloir, dans les couloirs du nouveau truc. Alors c'est là où t'aurais aimé que ça s'étende un peu plus, tu vois, que le personnage du T-800 en fait se batte contre eux un peu plus, etc., et ce genre de choses, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu limité, bah, là, et expédié par une baston entre le Terminator et la Terminatrix, quoi.
Qui est assez formidable, mais là.
Ouais, mais avec des grosses blagues sexuelles pourries.
C'est intéressant ce que tu soulèves parce que c'est un moment du film en fait où il y a deux aspects quasiment qui se font la gueule. C'est-à-dire que structurellement, ça s'appelle le soulèvement des machines, il faut bel et bien soulever, c'est ce qu'ils essaient de faire en mettant des Hunter Killer miniatures, donc les grands appareils qu'on voit dans les Terminators, et puis c'est T1. Et en même temps, c'est ce moment du film où le film vrille vers le drame qu'il doit être, puisqu'il se termine sur un drame. Donc on est sur les enjeux de la perte, on est sur les enjeux de ces gens qui se préparent à devenir... les sauveurs de l'humanité, alors qu'ils n'en sont même pas conscients à ce moment-là. Donc on est sur une trajectoire de personnage dramatique, alors qu'on est sur une trajectoire de blockbuster où il faut qu'il y ait tout qui pète. Et c'est vrai que ces deux aspects-là se font un tout petit peu la gueule à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça aussi que ce soulèvement des machines est un peu déceptif, parce que c'est plus le cœur à ce moment-là.
Alors attention, parce qu'il ne faut pas dire déceptif, il paraît. Moi, j'ai pas envie de te reprendre dans l'absolu, d'accord. Mais on nous reprend tellement.
C'est pour ça que ça déçoit un petit peu. Voilà. Ça va comme ça ?
Ouais, ça va aller. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui commentent sur Internet. On se l'est pris dans la gueule, mais c'était une blague, vas-y.
Mais ça peut jouer en tout cas sur l'appréhension, puisque tu as ces deux trajectoires qui s'accordent pas totalement. Et c'est vrai que ce soulèvement des machines. N'a pas l'ampleur que le titre sous-entendait.
Voilà, surtout quand tu voyais dans la bande-annonce, encore une fois, en fait, les images des Terminators en train de descendre les rues, tu vois, de Los Angeles, en fait, comme tu avais dans trois plans au début du film, mais qui sont exactement utilisés comme les plans au début de Terminator 2. Tu vois. Et c'est là, en fait, où c'est dommage, parce que tu te dis, merde, putain, moi, j'aurais voulu voir les rues, en fait, en flammes, ce genre de choses, etc., etc., tu vois.
Mais c'est plus de la faute, peut-être aussi du titre, que du film lui-même. C'est-à-dire que le titre te survend un truc qui n'est pas l'idée du film.
Alors,
puisqu'on est vraiment au moment où, en fait, où Skynet devient une singularité, et non pas au moment où les machines pètent tout, quoi.
Oui et non, mais après, le truc, entre guillemets, c'est que, comme ils ont le titre, ils essaient de le montrer dans le film aussi, quoi. Il y a une scène coupée. Il y en a une qui est assez connue, on va dire, pour ceux qui ont suivi un peu la genèse du film, qui s'appelle la scène du Sergent Candy.
Ouais, okay.
Qui est une scène en fait qui démontre en fait, je pense, les problématiques de cette suite pour moi en fait de manière assez elle est très courte, elle dure une minute, peut-être une minute cinquante, deux minutes. Et en gros, il t'explique pourquoi le Terminator et le T-800.
Bravo, on en est au stade où quand tu trouves un film moyen, tu vas carrément chercher dans les scènes coupées pour taper dessus. Bravo.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est une scène intéressante. En fait, je pense qu'elle démontre pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire, et bon, elle est coupée, hein, mais en fait, par contre, ils la mettent clairement en avant, hein, dans le DVD, dans les bonus. Hein. Et en plus, elle soulève une idée, encore une fois, qui est une idée qui est liée à la mythologie, tu vois, de Terminator. Pourquoi le Terminator ressemble à Schwarzenegger, ce qui est quand même déjà une question qui se posait dès le premier film, hein, c'est-à-dire, putain, les mecs, ils envoient un mec qui est censé, en fait...
un infiltrateur qui est gaulé comme Monsieur Univers, voilà, c'est littéralement. Ça.
Et il a un accent à couper au couteau. Pourquoi une machine a un accent à couper au couteau ? Au final, l'idée, c'est que tu acceptes ces choses-là parce que, un, il incarne tellement ça de manière tellement...
Oui, je me pose pas la question, en fait.
Tu ne poses pas la question. Mais sauf que je pense que, tu vois, justement, les scénaristes se sont dit, il faut qu'on le justifie quelque part. Jusqu'au moment où ils se sont dit, on n'a plus besoin de le faire, ils ont coupé la scène. Et il faut aussi dire que la scène est un peu ridicule, hein, en soi.
Un peu beaucoup.
Voilà, c'est qu'en fait, ils jouent sur la blague du truc. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un personnage qui s'appelle le Sergent Candy, qui est donc interprété par Schwarzenegger, qui donne son physique. Et le problème de la scène, c'est qu'il est en train de faire plus ou moins une espèce de vidéo interne pour montrer pourquoi en fait ils vont faire une machine à son physique avec son physique. Et il a un accent de beauf redneck de l'Arkansas ou je sais pas quoi. Non, pas de l'Arkansas, du Texas, tu vois. Et en gros, les mecs disent « Ah ouais, non, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'accent. » Donc là, tu vois Schwarzenegger qui parle avec un accent du Sud. et comment dire, et j'ose espérer que, t'imagines s'ils avaient fait une, si le film était sorti comme ça avec cette scène et en fait en VF ils avaient fait un accent du sud à Schwarzenegger. Tu commences à devenir
je veux pas imaginer des choses comme ça, pourquoi faire,
sont monstrueuses quoi. Bref, et en gros le gag c'est que le perso qui à qui on dit ça, il répond avec la voix de Schwarzenegger en disant on peut changer ça. Donc du coup en fait en une minute ils expliquent pourquoi les T-800 ont le physique de Schwarzenegger et pourquoi il a cette voix là. Et voilà, enfin bref. Et le problème, c'est que c'est un gag.
Oui, mais.
C'est
mais
quasiment qu'un gag. Alors, ils l'ont coupé.
C'est une scène coupée. Elle n'existe pas dans le film.
Non, elle n'existe pas dans le film, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'en gros, elle démontre aussi pas mal des fois l'approche du film. C'est-à-dire que si tu veux résumer aux gens qui n'ont pas forcément vu le film Terminator 3, ce truc-là, si tu leur montres cette scène-là, il y a, je trouve, pas mal de choses en fait, qui se retrouvent finalement. Voilà, pour moi, c'est équivaut aux lunettes à la Elton John, ça équivaut à Parle à la main et ce genre de gag, en fait. Qui étaient déjà plus ou moins, qui pour le coup sont dans le film.
Et oui, bref, mais qui ne sont pas si nombreux que ça non plus. Hein. Il n'y a pas à la main, il y a, il y a les lunettes. Il n'y en a pas des milliards non plus, mis à part.
Non,
ça.
Mais tu as le truc où Schwarzenegger il se prend un poteau, ce genre de choses. Tu vois, c'est des trucs en fait où à un moment donné, tu as envie de dire bon, d'accord, certes.
Qu'est-ce que t'appelles Schwarzenegger qui se prend un poteau ?
Il n'y a pas un truc à un moment donné où il se prend un poteau dans la gueule dans Terminator 3 ou alors il se prend le camion d'à côté ou je sais pas quoi.
Ah, c'est pas qu'il se prend un camion d'à côté,
ouais,
c'est
avec
que
les lunettes tordues, avec ce genre de choses. Tu vois, c'est des trucs un peu.
C'est la TX qui se sert donc de sa capacité donc de contrôler les véhicules pour à la fois envoyer une grue et la grue et l'ambulance pour mettre Schwarzenegger en sandwich et donc il se fait démonter la gueule sur l'ambulance.
Oui, mais sauf qu'en fait il le transforme comme un gag, c'est un truc à la Tex Avery quoi, c'est-à-dire qu'en fait en gros à la Bip Bip le Coyote, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu revois Schwarzenegger, le gag c'est qu'il a une lunette tordue, il est en train de faire sa gueule de voilà et en fait il fait une scène à la Get Down du Terminator 2, il envoie péter des mecs.
Ah, il fait sortir tous les pompiers. Ouais.
Donc tu as tout un tas de trucs comme ça où je te dis t'as l'impression en fait qu'il y a une espèce de manière de se frotter aux deux et en disant bah effectivement comme tu l'as dit on peut pas vraiment se frotter aux deux donc en fait on va faire des gags autour de ça pour faire passer un peu.
Il y en a quelques-uns et ouais. Là-dessus bah faut bel et bien admettre hein, puisque c'est effectivement le cas, c'est là. Maintenant voilà c'est un film
on va
que
se fâcher, il va me taper.
Mais non, je mais sens, non on va pas se fâcher. C'est je trouve vraiment que c'est un film qui essaie. Enfin, voilà, qui doit rentrer dans les pompes de Cameron, ce qui est virtuellement impossible, hein, puisque toi comme moi, on considère que c'est l'un des plus grands cinéastes de cette planète, mais qui essaie sincèrement de bien faire, et donc qui a un scénario que je trouve plutôt, dans l'ensemble, bien écrit, qui a des scènes d'action qui, je trouve, débourrent méchamment, qui a une fin qui est parmi probablement celles qui m'ont le plus surpris et qui m'ont le plus plu au cinéma. Je la revois encore aujourd'hui, j'ai toujours des frissons, ça marche à tous les coups.
Avec celle de The Game ? Non, pardon.
Petit con.
Vas-y, continue.
Et donc, ouais, globalement, je prends une satisfaction folle. J'aime aussi le rôle de Catherine Brewster, que je trouve intéressant, parce que c'est aussi de dire John Connor ne peut être John Connor que s'il a une femme forte qui l'accompagne, qui le porte, qui l'aide. Et donc, t'as presque l'impression que dans la saga Terminator, le sauveur de l'humanité, en fait, bon, c'est juste qu'il s'appelle John Connor, mais s'il n'avait pas eu les femmes de sa vie, il n'aurait jamais été ce qu'il est. Et je trouve que c'est aussi une idée qui est plutôt pas mal développée. L'actrice s'en sort très bien, alors que elle est globalement arrivée sur le tournage 3 semaines après le début des prises de vue.
Oui, parce que c'était Sophia Bush qui devait jouer le rôle.
Sophia Bush qui a joué dans le formidable remake d'Itcher. Ouais. Voilà, donc c'est la
dont on ne fera pas un épisode.
Non. Voilà. Enfin, on pourrait, mais pourquoi faire. Voilà. Et donc, elle a vraiment.
Par contre, on a fait un épisode sur le Itcher de le vrai, donc si vous voulez.
Le seul, en fait.
Voilà, ouais. Non, il y a une suite aussi qui est bon, relativement.
Je l'ai pas vu.
Non, c'est rigolo, mais c'est pas voilà. Non, mais après, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une question de perception, c'est-à-dire que le plaisir que je prends à Terminator 3 pour en tout cas boucler ma partie, mais tu pourras rajouter ce que tu veux rajouter derrière, voire même rebondir et hurler. C'est que moi, je le vois comme une version Commando, mais bien filmée. C'est vraiment.
Non,
en fait,
c'est
ça. Moi, je prends le plaisir. En fait, mon plaisir, c'est un plaisir de bourrin. Et en fait, j'essaye de le déconnecter quelque part. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas trop de problème avec l'idée de entre guillemets l'effacer, même si tu peux pas l'effacer puisqu'il existe, il a été fait le film. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit toi-même, Dark Fate se base, enfin en tout cas tu l'as peut-être dit hors antenne quand on en parlait entre nous.
Il y a pas mal d'idées.
Il y a pas mal d'idées qui reprennent effectivement, mais je pense que le problème c'est que comme t'as 15 galops d'essai avant Dark Fate, c'est sûr que Dark Fate passe totalement pour un truc qui pioche dans ces idées-là, hein, et qui sont des idées qui sont logiques aussi quelque part quand tu suis, on va dire la mythologie de Terminator, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à le décorréler un peu de Terminator dans l'absolu. Déjà, c'est plus facile parce que c'est pas le même acteur qui joue John Connor, ça, on a oublié de le préciser, mais c'est Nick Stahl hein, qui joue John Connor. T'as ça, et puis t'as Silberstein qui apparaît, enfin le psy, quoi.
Ouais, qui apparaît pour une scène, voire un plan.
Voilà, c'est ça, il n'y a pas Sarah Connor, donc en fait, au bout d'un moment, tu peux... pour moi, facilement décorrélé. C'est-à-dire que si c'était arrêté à Terminator 3 dans l'absolu, on va dire, bon, bah, on aurait trois films, je pense que ça aurait fait beaucoup moins méritant. C'est-à-dire c'est un film qui aurait été... c'est-à-dire il a ses mérites en soi, c'est-à-dire des mérites de films d'action, où je prends un certain plaisir, tu vois. Mais après, par rapport à un Terminator de base, en fait, si tu veux, voilà. Maintenant, évidemment, qu'à côté de Renaissance et à côté de Genesis, tu vois, pour moi, c'est une merveille, Terminator 3, ça, c'est sûr. Mais
on va peut-être pas faire un podcast sur Renaissance où je vais te dire que j'adore ce film.
Non. Okay. Mais d'ailleurs, non, on va pas le faire. Pas maintenant. En tout cas, peut-être l'autre fois, on verra, mais pas maintenant. Et le truc, c'est que voilà, il y a. Moi, c'est ça. Je t'ai dit, je sais que c'est une formule un peu, mesquine. Mais pas tout à fait fausse, tu vois, pour moi, si je suis honnête avec moi-même, c'est vraiment, c'est Commando en bien fait, en bien filmé, tu vois, en bien foutu. Et moi, ça me va, hein, j'achète, hein, tu vois, c'est-à-dire, je prends mon plaisir là où il est, là-dedans, mais on va dire, sur la mythologie Terminator, je reste vraiment en dehors de la très jolie fin, tu vois.
Alain, la technique, tu couperas juste avant qu'ils disent le 978e mai, on restera sur, c'est un film, en fait, j'achète. Ça me plaît, bien, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, en fait.
On fait toujours long avec les gros suites en fait de films voilà. Donc tu voulais rajouter un truc à la...
Globalement tu as dit que c'était un film où tu trouvais les satisfactions. Moi je vous dis c'est un film où je trouve énormément de satisfactions.
Démerdez-vous avec.
Globalement si vous l'avez pas vu, voyez-le, si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. De toute façon, vous passerez dans tous les cas pas un mauvais moment parce que ça reste même si tu l'aimes moins que moi, tu ne dis pas que c'est une honte.
Mais parce que en fait, voilà, après c'est pas, voilà, ça reste clone, c'est une honte. C'est le film suivant de Mosto, mais
t'as vu The Hunter's Prayer qu'il a fait il y a 2 ans. Non. Oh la vache, ça fait de la peine. Hein. Ça fait vraiment de la peine.
Après, c'est un cinéaste assez bon. On en a pas mal parlé, mais c'est un cinéaste assez étonnant en fait parce que il est censé être assez simple, mais c'est vrai que je pense que c'est ce qu'il perd aussi, quoi. C'est-à-dire que il est pas sophistiqué pour un sou. Et on va dire que je pense que Terminator 3 lui a quand même fait du mal à lui pour le coup, sur non pas en termes qualitatifs, hein, mais vraiment en termes de perception du cinéaste qu'il est à Hollywood, quoi. Donc je pense que ceci explique, parce qu'il a fait que 2 films, hein, finalement, derrière C'est ça et Clone, tu vois. Et en fait, voilà, c'est dommage. Après, il faut être honnête, c'est des mauvais films. Enfin, j'ai pas vu celui dont tu parles, mais j'ai vu le Clone.
Ça fait passer Clone pour une merveille.
D'accord.
Voilà.
Merci Monsieur Charpentier.
Bah, merci à toi de m'avoir invité.
Voilà, pour merci me faire défoncer la gueule, on est toujours copains. Hein.
On est toujours copains.
Ah ça va alors. Merci Alain à la technique, tu vois, je le dis, c'est parce que tu l'as dit, tu vas me rappeler qu'il fallait que je le dise aussi.
Ouais,
merci
sais,
Alain, merci à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés, donc on se retrouve la semaine prochaine avec un autre film, je ne sais pas encore quoi, on verra. Hein. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux habituels. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur SoundCloud, sur tous ces formidables réseaux. Et à la prochaine.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.